Et ce matin, j'aimerais prêcher ou enseigner sous la thématique que tu survivras à la tempête. Tu passes par une tempête ce matin, mais tu survivras à la tempête. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu survivras à la tempête? Dis à quelqu'un d'autre, tu survivras à la tempête. Dis à quelqu'un, tu survivras à la tempête. Le psalmiste dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. Dis à quelqu'un, tu survivras à la tempête. Déclare sur ta vie, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les hauts faits de l'Éternel. J'aimerais parler donc sur la thématique que tu survivras à la tempête. Quatre types de tempêtes. Comment s'y préparer et survivre? Car si la tempête arrive, le but de Dieu, c'est que tu puisses survivre. Et dans la marche de chaque chrétien, il y a quatre types de tempêtes que vous allez croiser. Il y a une certitude dans la vie, la tempête arrivera. Amen. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, la tempête arrivera. J'aimerais poser des fondations, comme il est de mon habitude, pour commencer. Ensuite de cela, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Nous allons lire trois textes pour cela. Et j'ai demandé à mon épouse de lire un texte pour nous. Donc nous allons commencer par le texte de Genèse. Genèse chapitre 8, le verset 22. Si vous y êtes, dites, nous y sommes. Je n'ai pas entendu l'unanimité. Il est derrière, non, il n'est pas derrière moi. Genèse chapitre 8, le verset 22. Ensuite, nous lirons le psaume 90, le verset 12. Genèse chapitre 8, le verset 22. La Bible dit, si vous l'avez, nous pouvons le lire ensemble. Et c'est Dieu qui parle. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on peut le relire encore? Amen. Nous lisons un deuxième verset dans Psaume 90, le verset 12, c'est une parole de Moïse. Psaume 90, le verset 12. Et c'est la parole de Moïse qui dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Et le dernier texte que nous lisons, c'est mon épouse qui le lira et nous pouvons accompagner s'il est là, Ecclésiaste. Chapitre 3, le verset 1 au verset 8, pour terminer ce matin. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1 au verset 8.
Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Amen. Seigneur, parle-nous ce matin. Je me tiens devant toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ta parole et je suis un simple instrument. Je voudrais m'effacer devant toi et reconnaître ta grâce, Seigneur, et demander que tu viennes nous visiter ce matin. Guéris quelqu'un, restaure quelqu'un. Seigneur, change même la parole de ma bouche, mais que quelqu'un soit visité par toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le texte de la Genèse que nous avons lu, c'est une parole que Dieu va déclarer après le déluge. Les hommes se comportaient mal et Dieu a envoyé le déluge et a rasé la terre, sauf la famille de Noé qui est rentrée dans l'arche. Et la Bible dit qu'ils sont sortis de l'arche et Noé a offert un sacrifice à Dieu. Et Dieu a trouvé le sacrifice de Noé agréable. Et Dieu fait cette déclaration que tant que, il y aura des semailles, des moissons, le froid, la chaleur. Il dit que la terre subsistera. Et Dieu affirme cette vérité importante pour nous montrer par cela les cycles des saisons qui se succèdent et continueront à se faire tant et aussi longtemps que la terre va subsister. Et les éléments, en fait, de froid, le froid, la chaleur, les saisons sont donc des régulateurs qui nous permettent de saisir le passage de temps et des transitions, parce que tout ce que Dieu fait dans notre vie, Dieu le fait par des transitions. C'est pendant qu'il était en transition que Jésus va être touché par la femme atteinte de la perte de sang, dans la transition vers une autre étape, que la guérison va s'opérer. C'est quand Pierre était en transition vers le temple qu'il va croiser le paralytique à la porte du temple, qui va dire « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'aimerais te dire ce matin que si tu es en transition, tu es le bon candidat pour l'intervention de Dieu dans ta vie. Quelqu'un dit amen. Et les saisons dans notre vie, les saisons dans la nature, ce sont des éléments qui sont prédictibles dans leur chronologie, dans leur ordre d'arrivée. Ce sont des éléments, ce que j'appelle des éléments des certitudes qui nous permettent, à cause de leur prédictibilité, de pouvoir bien nous préparer. Voilà pourquoi, quand vous savez que l'hiver arrive, si vous êtes un bon Canadien, ce que vous allez faire, vous allez enlever vos pneus d'hiver, et puis vous allez vos pneus d'été, et puis vous allez mettre vos pneus d'hiver. Donc, la saison qui arrive, en fait, dicte votre comportement avant que la saison arrive. Ainsi, on peut donc dire que à cause de la succession des saisons, chaque saison qui arrive nous force à réajuster notre comportement afin de pouvoir survivre. Quelqu'un dit amen. Et la saison donc nous force à avoir une préparation adéquate pour pouvoir aller de l'avant. C'est cette pensée dans le psaume 90, le verset 12, que Moïse exprime en disant « Enseigne-nous à bien compter nos jours, compter, comptabiliser, analyser les positifs, les négatifs, en tirant des leçons d'hier afin de pouvoir survivre demain. Comptabiliser veut dire regarder les erreurs de certaines personnes afin de ne pas commettre ces erreurs. Donc la sagesse ne vient pas nécessairement à force d'essais et d'échecs, mais parfois en regardant ce que les anciens ont traversé et pouvoir prédire ce qu'il va arriver. Et parfois, certaines choses arrivent, ça ne prend pas d'être prophète. Si tu vois quelqu'un en hiver qui roule à 180 km/h sous la neige, ça ne prend pas d'être prophète pour te dire qu'il va frapper un mur. Moïse a environ à cette époque-là 160 ans au moment où Moïse fait cette prière à Dieu. « Seigneur, nous avons commis tellement d'erreurs. Nous avons traversé ce désert, 40 ans d'échecs, 40 ans où nous avons tourné en rond parce que nous n'avons pas su reconnaître ta saison. Mais Seigneur, alors que cette nouvelle génération va rentrer dans le pays promis, apprends-nous à bien regarder hier afin de pouvoir anticiper demain. » Il y a ici l'idée de discerner. Il y a ici l'idée de discerner afin d'acquérir la sagesse pour mieux survivre demain. Et le côté intéressant, c'est que Moïse, quand il fait cette prière, il a 160 ans. Mais il dit, je n'ai pas tout vu, je n'ai pas toute l'expérience. C'est la pensée que Ecclésiaste va aussi exprimer dans Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9, où il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui s'est déjà fait, car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On ne peut pas réinventer la roue parce que la vie vient en cycle. Tantôt c'est l'été, tantôt c'est l'hiver, tantôt c'est le froid, tantôt c'est la chaleur. Amen. Amen. Et donc ainsi, certaines choses qui arrivent dans notre vie, ce sont des choses qu'on peut prédire d'avance. Ce sont des choses qu'on peut voir venir d'avance parce que si on comprend le principe que la vie vient en cycle. Et c'est ce que, en fait, Ecclésiaste que le texte que nous avons lu au chapitre 3, le verset 1 à 8, le texte que nous avons lu, dit, lorsqu'il dit qu'il y a une saison, parce que le véritable mot, ce n'est pas un temps, mais il y a une saison pour toute chose. Et chaque saison que nous traversons dicte un certain comportement que nous sommes supposés avoir. Exemple, tuer quelqu'un en temps de guerre est acceptable, mais le tuer quand ce n'est pas la guerre, ce n'est pas acceptable. La saison fait que certaines choses, certains comportements que nous avons sont acceptables ou non acceptables. Ainsi, voir quelqu'un pendant l'hiver qui ne porte pas de manteau, c'est non acceptable. Ça ne prend pas d'être prophète pour dire que cet homme risque de mourir ou d'attraper telle ou telle maladie parce que son comportement n'est pas adapté à la saison. Et bien souvent, dans nos vies, ce n'est pas tellement que Dieu n'agit pas, c'est que nous avons un comportement qui n'est pas adapté à la saison. C'est pour cela que Proverbe, au chapitre 30, le verset 25, nous dit, en nous donnant la sagesse de la fourmi, Proverbe dit que les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture, parce qu'ils anticipent que l'hiver va venir. Puisse Dieu ce matin nous donner la sagesse des fourmis. Puisse Dieu nous donner la sagesse de nous préparer avant que les temps difficiles n'arrivent. Ainsi, nous voyons qu'il y a des successions dans notre vie. C'est la meilleure préparation aux successions dans nos vies que nous pouvons survivre aux temps difficiles. Qu'est-ce que nous essayons de dire ce matin? Dieu nous dit que tu survivras à la tempête. Pourquoi? Parce qu'il arrive dans notre vie des belles saisons. Des saisons où tout a bien été. Des saisons où on a fait beaucoup d'argent. Des saisons où tout réussissait. Mais il arrive aussi des saisons où tout est plus difficile. Et ce matin, j'aimerais parler à trois catégories de personnes. J'aimerais parler aux personnes qui ne sont pas encore dans la tempête, mais qui vont rencontrer la tempête demain. J'aimerais parler aux personnes qui sont déjà dans la tempête et j'aimerais parler aux personnes qui sortent de la tempête. Parce que dans la vie, il y a ces trois étapes-là. Soit vous êtes en train d'aller dans une tempête, ou vous êtes dans la tempête, ou bien vous sortez de la tempête. Que personne ne vous trompe avec une vie chrétienne magique où il n'y a jamais de problème, tout est parfait, le ciel est sur terre, parce que je suis apôtre, je suis prophète, je le roule en limousine, je n'ai jamais de problème. Non, il y a toujours ces trois étapes. Ou je suis dans un problème, dans une tempête, ou je m'en vais dans une tempête, ou je suis en train de sortir de la tempête. Et le plus important pour nous, ce n'est pas la certitude que la tempête va arriver, c'est d'être prêt quand la tempête arrive afin de survivre. Dis à ton voisin, tu survivras à la tempête. En termes de concept, une tempête, c'est ce qu'on appelle une violente perturbation atmosphérique. C'est un grand vent accompagné de pluie, d'orage. C'est ce qu'on appelle une zone de turbulence. Et souvent, on fait beaucoup ça lorsqu'on est dans l'avion. C'est une agitation, un trouble. Mais ce qu'on appelle aussi au niveau de la vie de tous les jours, une tempête est une instabilité, un désordre. C'est un déchaînement, une incertitude, une zone d'incertitude où vous traversez. Vous traversez une zone dans votre vie où vous ne savez pas comment vous allez payer le loyer. Vous traversez une zone où vous vous retrouvez sans emploi. Vous traversez une zone où vous ne savez pas si votre mariage va survivre. J'aimerais vous dire ce matin que vous êtes dans la tempête et que vous allez survivre. Quelqu'un dit amen. Vous êtes dans la tempête, vous allez survivre. Quelqu'un dit amen. Il y a différents types de tempêtes. Ici au Québec, pour ceux qui étaient là, comme nous qui avons fait plus de 20 ans, il y a 20 ans, je pense que ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans, on a eu ce qu'on appelle la fameuse tempête de verglas. En Floride, chaque hiver, ils ont une tempête et puis ils donnent un nom. Le pire, c'était arrivé, je pense que c'était Katrina. Il y a tellement que les tempêtes marquent nos vies, nous donnons des noms aux tempêtes. Comment s'appelle la tempête de ta vie? Peut-être ça peut être une tempête silencieuse dont tu ne parles à personne. Tu as trop honte d'en parler, mais tu es dans une tempête ou tu es en train d'aller dans une tempête. Il y a ce qu'on appelle certains vivent ce qu'on appelle des cyclones. Certains vivent ce qu'on appelle des orages. Certains vivent des tornades, des tempêtes qui ne sont pas sur la mer, mais qui sont sur la terre. Et il y a ce qu'on appelle au Congo certaines tempêtes spéciales qu'on appelle les kakés. Vous connaissez la foudre qui frappe. Certains vivent des tsunamis où c'est un déluge total. Il y a ce qu'on appelle, pour ceux qui sont dans les zones désertiques, on appelle des tempêtes de sable. Pour ceux qui sont ici au Québec, on appelle ça des tempêtes de neige. On appelle ça des tempêtes de grêle. Mais qu'importe comment on les nomme, qu'importe l'adjectif qu'on met devant ou les dénominateurs qu'on met devant, une chose est certaine, à un moment ou à un autre, tu traverseras la tempête. Peut-être que ce matin, tu es assis et tu es en train de traverser une tempête. J'aimerais te parler de la part de Dieu de quatre tempêtes. Osée chapitre 8, le verset 7, dit, Dieu dit ceci à Israël. Puisqu'ils ont sémé le vent, ils moissonnent la tempête. Galates chapitre 6, le verset 7 dit, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme a semé, il le moissonnera. Ainsi, lorsque on parle des tempêtes, il y a généralement deux catégories de tempêtes. Et je mets mes bases pour que lorsque on va accélérer, vous puissiez me suivre. Il y a ce qu'on appelle dans la vie les tempêtes cycliques. Quelqu'un dit tempête cyclique. Genèse chapitre 41, le verset 1 au verset 43, nous en font une bonne démonstration où Lot est descendu à Sodome et il était prédictible qu'il allait mal finir. Les tempêtes cycliques, c'est ce que j'appelle les tempêtes saisonnières. C'est-à-dire que c'est des tempêtes que tu ne peux pas éviter. C'est des tempêtes qui vont venir. Tu auras beau appeler un prophète, un pasteur pour prier pour toi, tu ne peux pas éviter ces tempêtes. C'est des tempêtes qui font partie des cycles de la vie. Les gens qui habitent en Floride savent que tôt ou tard, il y a ce qu'on appelle la saison des ouragans. La tempête viendra. Dis à quelqu'un, la tempête viendra. Deuxième des choses, les gens qui habitent dans les pays au nord, comme nous ici au Québec, ils savent que la tempête de neige viendra. Voilà pourquoi nous sommes préparés et les gens qui sont au sud se demandent, mais avec 15 cm de neige, comment vous allez travailler? Nous allons travailler parce que nous sommes préparés à la tempête. Il y a la deuxième grande catégorie des tempêtes, il y a ce qu'on appelle les tempêtes non prévisibles ou les tempêtes qui sont hors saison. C'est ce que Job a vécu. Soudainement, ce n'était pas la saison. Tout allait bien dans sa vie, mais tout à coup, tout s'est mis à mal aller. Alors que nous sommes en train d'aller de l'avant, retenons qu'il y a deux grandes catégories de tempêtes. Il y a des tempêtes cycliques, prévisibles, que vous ne pouvez pas éviter. Même si vous priez, vous jeûnez, ces tempêtes font partie de la vie. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ecclésiaste ne dit pas que c'est le diable. Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est le cycle normal de la vie que ces choses nous arrivent. Et il y a des tempêtes que j'aimerais peut-être vous dire en fermant cette partie que je voulais ouvrir avec vous. Certaines tempêtes sont attachées à certains endroits et à certaines zones géographiques. Quand Lot est descendu à Sodome, la tempête était attachée à Sodome et Gomorrhe. La tempête de feu qui est descendue était attachée à une région. Donc l'endroit où vous vous trouvez peut aussi déterminer la nature des tempêtes que vous traversez. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que dans certaines zones, quand vous arrivez, par exemple, certaines régions avec votre mariage, la tempête du divorce, à un moment donné, risque de souffler. C'est attaché à une certaine région. Si nous allons en Afrique, on ne peut pas espérer avoir les ouragans comme on les a aux États-Unis. Certaines tempêtes sont attachées à certaines régions. Certains endroits où tu te trouves déterminent les tempêtes que tu auras dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais trois phases dans la vie. La phase où je suis pas encore dans la tempête, la phase où je suis dans la tempête et il y a la phase où je sors de la tempête. Dieu, ce que j'aime de Dieu, c'est que qu'importe l'étape où nous sommes, c'est la certitude que Dieu est avec nous. Que nous soyons dans la tempête, que nous soyons avant la tempête ou après la tempête, Dieu est avec nous. C'est ce que la Bible dit lorsqu'elle dit que l'Éternel était assis sur son trône lors du déluge. Peut-être que tu vis un déluge financier, mais Dieu est là. Peut-être que tu vis des circonstances difficiles où tu ne sais pas comment tu vivras demain. J'aimerais te dire que Dieu est là. Peut-être que tu ne sais pas comment tu vas te sortir de la situation. Tu es comme Daniel dans la gueule, dans la fosse au lion. Et tu ne sais pas comment tu vas te sortir. Je ne sais pas non plus comment, mais j'aimerais te dire que Dieu est là. Alors que Pierre était dans la tempête, qu'on avait fermé les portes de la prison, Pierre ne savait pas comment sortir. Mais la Bible dit que la nuit, Dieu a envoyé son ange ouvrir la porte de la prison. Quand les solutions humaines ne peuvent pas te délivrer de la tempête, il y a des solutions divines qui peuvent te délivrer de la tempête. Voilà pourquoi j'aimerais te dire ce matin, ne crains pas la tempête, reste tranquille, invoque ton Dieu et ta délivrance poindra. Ta délivrance arrivera, qu'importe le nom de ta tempête. Si c'est un tsunami, Dieu est avec toi. Si c'est une tornade, Dieu est avec toi. Si c'est un cyclone, Dieu est avec toi. Si c'est un typhon, Dieu est avec toi. Si cette tempête est envoyée par l'ennemi, Dieu est avec toi. Si cette tempête est envoyée comme une flèche en plein jour, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi le psaume 46 dit que Dieu est pour nous un abri et un refuge, un secours qui ne manque pas dans la détresse. C'est pour cela que nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, écument au fond des mers. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, Dieu la secoue dès le matin. Des nations s'agitent, il fait entendre sa voix. Dieu est avec toi dans la tempête. Tu es peut-être découragé, mais je suis venu te dire que Dieu est avec toi dans la tempête. Il dit que si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Si tu passes par les vagues ne te submergeront pas, car il trouvera toujours un moyen de te délivrer. Quelqu'un clame le Seigneur ce matin. Quelqu'un clame le Seigneur ce matin. Dieu est avec toi dans la tempête. La Bible dit dans Job chapitre 38, le verset 1, que l'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Et dit à Dieu, réponds-moi Seigneur au milieu de la tempête. Dites-le avec moi. Dis à Dieu, réponds-moi au milieu de la tempête. Réponds-moi au milieu de la tempête. Quand tout tombe autour de moi, réponds-moi. Quand je ne sais pas comment prier, réponds-moi. Quand je pleure, réponds-moi. Quand je fais la dépression dans mon lit, réponds-moi. Quand je n'ai plus de force pour prier, Seigneur, réponds-moi. Quand je n'ai plus envie d'aller à l'église, réponds-moi. Quand mes amis m'abandonnent, réponds-moi. Quand je ne sais pas de quoi demain sera fait, réponds-moi comme tu as répondu Job au milieu de la tempête, car ta voix est plus forte, plus puissante que la tempête. Ta voix fait enfanter les biches. Ta voix brise les cèdres du Liban. Quand je n'ai plus d'espoir, réponds-moi Seigneur. Tends mon oreille. Dispose mon oreille à t'écouter. Dispose mon oreille à entendre ta voix. L'Éternel répondit. Dans ta tempête, Dieu te répondra. Dans ta tempête, Dieu te répondra. Ésaïe 43, verset 2 dit, si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Si tu passes par les vagues ne te submergeront pas. Ésaïe, chapitre 12, le verset 2, Ésaïe dit, voici Dieu est ma délivrance. Je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je ne sais pas comment s'appelle ta tempête, mais ce matin, tu peux dire avec moi, voici Dieu est ma délivrance et le sujet de mes louanges. Je ne craindrai point car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. La Bible dit que quand la tempête soufflait dans la vie de David, qu'il n'y avait plus d'appui humain, la Bible dit que David s'appuya sur l'Éternel. Quand tu es au fond du baril, qu'il n'y a plus moyen de remonter, il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus de moyens humains, quand tu t'appuies sur Dieu, tu remonteras. Quand tu t'appuies sur le Fils de l'homme, tu remonteras. Dieu te fera remonter et tes ennemis verront et pourront acclamer le nom de notre Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. Il y a une certitude ce matin, la tempête arrivera. Il y a une certitude ce matin, la tempête arrivera, mais avec la tempête, Dieu est avec toi, qu'importe le type de tempête que tu traverses. Amen. Nous voulons voir ce matin quatre types de tempêtes. Le premier type de tempête que vous pouvez traverser, c'est ce que j'appelle la tempête de transition. Quelqu'un dit la tempête de transition. Quelqu'un dit très fort la tempête de transition. Matthieu chapitre 8, le verset 24. Jésus dit aux disciples, allons de l'autre bord. Qui a dit allons de l'autre bord? Qui a dit allons de l'autre bord? Jésus dit allons de l'autre bord. Mais pendant qu'ils y vont, la tempête souffle. Comment Dieu peut-il me donner une direction et permettre à un problème d'arriver? Les chrétiens matures comprennent que je peux être dans la volonté de Dieu et avoir des gros problèmes. Les chrétiens matures comprennent que la volonté de Dieu n'est pas l'absence des difficultés, n'est pas l'absence de problèmes, mais la première tempête que vous pouvez traverser, c'est ce que j'appelle la tempête de transition. La tempête de transition tire son origine d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle direction que le Seigneur vous a donnée, d'une nouvelle porte, d'un nouvel emploi, d'un nouveau champ de travail, d'une nouvelle entreprise que Dieu vous a inspiré, que vous commencez, mais pendant que vous êtes en train de faire la transition vers la nouvelle étape de votre vie, souvent, il y a la tempête qui éclate. Alors, j'aimerais dire ce matin que les deux premiers types de tempêtes que je vais citer ce matin, c'est ce que j'appelle les tempêtes cycliques. Ils sont prédictibles. Quand tu sais qu'ils sont prédictibles, tu peux t'y préparer. Jésus dit aux disciples, il fait le miracle des pains et des poissons. Et Jésus embarque avec les disciples, il dit non, allons de l'autre bord. Et pendant qu'ils sont en train d'aller de l'autre bord, la Bible dit, dans un des récits, la Bible dit que le vent est en train de souffler dans la mer. Les disciples sont en panique. Jésus est dans la barque, mais Jésus ne dit rien. Et souvent, ce qui arrive lorsque tu traverses une tempête de transition, c'est que Dieu est avec toi, mais Dieu décide dans sa souveraineté de garder le silence. Je t'aime, mais je me tais. Je t'aime, ma fille. Mais je me tais, je te laisse passer par la tempête de transition. Au bout de la tempête que tu traverses, il y a une bénédiction. Mais pour que tu atteignes la bénédiction, tu dois passer par la tempête de transition. Quelqu'un dit transition. C'est une tempête qui arrive. Si vous étudiez le texte de Matthieu chapitre 8, aux alentours du verset 24, c'est une tempête qui arrive sans prévenir. Parce que lorsque les disciples ont embarqué, le texte ne dit pas qu'il pleuvait. Le texte ne dit pas qu'il faisait mauvais. Mais la tempête est arrivée tout à coup. Une tempête de transition est une tempête qui arrive dans votre vie. Au moment où on t'a dit qu'on te donne l'emploi, l'enfant tombe malade, la voiture tombe en panne, c'est une tempête de transition parce que c'est des événements qui arrivent sans crier garde. Les disciples sont dans la barque, ils sont en train de parler des miracles, comment Jésus a opéré. Mais quelle assurance, nous avons Dieu avec nous dans la barque. Il n'y a rien de mal qui peut nous arriver. Quand il parle, les malades sont guéris. Quand il dit un mot, le ciel bouge. Même si nous n'avons pas de pain, il peut multiplier le pain. Mais soudainement, la tempête de transition éclate. Et celui qui a multiplié les pains et les poissons est si silencieux. Qu'est-ce que tu fais lorsque dans ta tempête, Dieu t'aime, mais il est silencieux. La tempête de transition. Quelqu'un ce matin est dans une tempête de transition. Tu as eu la promotion, mais avec la tempête. Tu as eu la promotion, mais avec la tempête. Tu as eu la couronne, mais avec les épines. Mais j'aimerais te dire ce matin, c'est seulement une tempête. Dis à quelqu'un, c'est seulement une tempête. Et ce que j'aime des tempêtes, c'est qu'elles finissent par passer. Aucune tempête ne reste éternellement. Toute tempête est prédestinée à passer. La tempête que tu traverses passera. La tempête est temporaire, mais Dieu est éternel. Quand Jésus se réveille, on le réveille, on dit, « Mais maître, nous périssons, tu es en train de dormir. » Jésus se réveille et vraiment il dit une parole, « Si j'étais Pierre, peut-être que je l'aurais jeté par-dessus bord. » Il dit, « Jean de peu. » Achevez la phrase, « Jean de peu. » Quel était le but de la tempête? Tester leur foi, fortifier leur foi. Donc, dans une tempête de transition, le but, c'est de fortifier ta foi. C'est de bâtir ta foi pour la prochaine dimension. Dieu permet dans ta vie une tempête. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu permet dans ta vie certains types de tempêtes pour résoudre certains problèmes à venir. Parce qu'en débarquant, ils allaient croiser un homme qui est habité d'une légion de démons. Ça prenait un certain niveau de foi. Donc, le but de la tempête, ce n'est pas de les détruire. La tempête de transition est un test. Et dans un test, l'enseignant se tait. Le silence dans une tempête de transition n'est pas une punition, mais c'est une vérification que la matière a été maîtrisée et acquise afin que quand on passe de l'autre bord, on a une dimension de foi plus forte, on a une dimension de foi plus élevée. Voilà pourquoi quand David, tous ces hommes cherchent à le lapider, c'est une tempête de transition vers la royauté. David, dans la tempête, a la bonne réaction. Il s'appuie sur Dieu. Tu peux t'appuyer sur Dieu même si Dieu est silencieux dans ta vie. Tu peux t'appuyer sur Dieu même si Dieu est silencieux. Ainsi, dans une tempête de transition, quand vous êtes dans la tempête de transition, la première des choses, c'est de reconnaître les manifestations. Quelles sont les manifestations? Qu'est-ce qui m'a emmené dans cette tempête? Soudainement, je reçois une élévation, mais en même temps, plein de problèmes surgissent. C'est une tempête de transition. Dieu teste ma foi pour la fortifier. Dis à quelqu'un, Dieu teste ta foi. Et ce qui est bien ce matin, c'est que pendant que je suis en train d'enseigner, je sens que quelque part dans ton esprit, des réponses à des problèmes commencent à surgir. Dans une tempête de transition, on ne chasse pas des démons. Il n'y a pas de démons. Dieu est avec toi, il n'y a pas de démons. Dans une tempête de transition, on ne prend pas autorité. C'est le Seigneur lui-même qui règle la chose. Dans une tempête de transition, on reste calme et on se fonde sur la parole de Dieu, que Dieu qui a permis la tempête contrôle la tempête et avec l'épreuve, il préparera le moyen de m'en sortir. La Bible dit que le soir arrive les pleurs, mais le matin, c'est l'allégresse. La Bible dit que ceux qui portent leurs semences avec larmes, quand ils moissonnent, ils retournent avec des cris de joie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui traverse une tempête de transition, c'est seulement un test. C'est seulement une transition. Tu es en transition vers ta bénédiction. Tu es en transition vers ton élévation. Et quand tu es en transition vers ton élévation, tout ce que tu vis est une zone de turbulence. Et quand l'avion passe par une zone de turbulence, pas besoin de sauter de l'avion. Tout ce que tu dois faire, c'est attacher votre ceinture, dit le pilote, car c'est une zone de turbulence. Nous serons secoués, mais nous ne coulerons pas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, va de l'autre bord. Il a dit, allons, parce que quand tu vas de l'autre bord, il est avec toi. Dans son silence, il est avec toi. Au milieu de la tempête, il est avec toi. Au milieu du bruit, il est avec toi. Quand tu le sens, il est avec toi. Quand tu ne le sens pas, il est avec toi. Il a dit, allons, je vais avec toi dans la tempête. Je suis avec toi dans la tempête. Ma voix contrôle la tempête. La tempête de transition. Dis à quelqu'un la tempête de transition. Je ne sais pas si tu es dans une tempête de transition. Mais le premier type de tempête cyclique, c'est les tempêtes de transition. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans cette tempête, il y a certains types de prières que vous ne pouvez pas faire. Ça ne marchera pas. Dans une tempête de transition, c'est une tempête que l'on subit, car ça fortifie notre foi. Nous apprenons à ne plus nous appuyer sur les hommes, mais nous apprenons à nous appuyer sur Dieu. Cantique de David, quand l'Éternel lui délivrait de ses ennemis. Je me crie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les flots de la mort m'avaient assujetti. Alléluia. Deuxième type de tempête ce matin. Est-ce que vous êtes bénis? Deuxième type de tempête. Première tempête, la tempête de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en transition ce matin? Quelqu'un en transition ce matin? Deuxième type de tempête, c'est ce que j'appelle la tempête des fondations. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. J'étais en prière, Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux là. Oh mon Dieu! Tempête des fondations. Luc chapitre 6, verset 47 au verset 49, Jésus donne une parabole qui illustre bien une réalité spirituelle. Et je demande à nos jeunes de rester, parce que quand tu apprends ça, quand tu es jeune, tu apprends à sauver beaucoup de temps dans la vie. Luc chapitre 6, verset 47 à 49, la Bible nous parle, Jésus parle d'une parabole où il parle de deux hommes qui ont bâti. Un, pour bâtir sa maison, a creusé la terre jusqu'à trouver le rocher, et il a établi sa maison fondée sur le rocher. Le deuxième a établi sa maison sur le sable. Et Jésus dit que la tempête est venue. Quand Jésus dit que la tempête est venue, Jésus utilise la parabole pour parler des gens qui écoutent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et il utilise l'illustration d'une maison et d'une tempête. Et lorsque Jésus parle de cela, il dit que la tempête est venue. Ce n'est pas le diable qui a envoyé la tempête. C'est un cycle normal de la vie. Beaucoup de chrétiens font beaucoup de prières. Hein, ils lisent tout ce qui existe. Mais Jésus dit que la tempête qui a soufflé sur les deux maisons. Sur ceux qui écoutaient la parole et qui la mettaient en pratique. Et sur ceux aussi qui ne la mettaient pas en pratique. La tempête a soufflé. Donc, nous retenons que une certitude dans le texte, c'est que la tempête viendra. Ça fait partie du cycle de la vie. Le diable nous trompe en voulant nous faire croire que nous allons vivre une vie chrétienne sans problème, sans rien. C'est ce que j'appelle de la drogue spirituelle. La réalité, Jésus dit, vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Avec l'épreuve, Dieu préparera le moyen de nous délivrer. La tempête des fondations est une tempête qui a pour but de tester les fondations de notre vie. Sur quoi nous sommes fondés? Sur quoi notre vie est fondée? Sur quoi notre mariage est fondé? Sur quoi notre façon de penser, de raisonner est fondée? Vous savez, c'est seulement quand on est testé qu'on peut savoir si ce que nous avons vaut la peine. La fondation, une fondation, par définition, c'est la base de quelque chose. Dans l'architecture, une fondation, c'est une base qui permet d'assurer la transmission et la répartition du poids d'un édifice sur le sol. Dernièrement, j'étais en train de regarder une émission sur YouTube qui démontrait comment est-ce que comment on appelle cet endroit-là? Ce n'est pas les Émirats arabes. À Dubaï, comment ils ont bâti la tour la plus haute au monde. Et ils ont passé plus de temps à s'assurer que les fondations pouvaient supporter la hauteur et le poids. Souvent, nous voulons bâtir en hauteur sans bâtir en profondeur. C'est la capacité de bâtir en profondeur qui détermine la capacité de bâtir en hauteur. Et cette tour qui a été bâtie avec des normes bien précises. Et on parle des autres tours aux États-Unis qui ont été bâties dans une zone où il y a beaucoup de vent. Et la fondation a été bâtie de manière à ce que si le vent vient, la tour peut bouger. La fondation permet de s'adapter au vent et aux tempêtes. Si la fondation est trop rigide, elle ne nous permet pas de nous adapter. Le type de fondation va déterminer alors la nature de l'édifice à bâtir. La nature, la hauteur, le poids, la capacité de l'édifice. Ce n'est pas, et la valeur d'un édifice est souvent déterminée par la valeur de la fondation, car quand la fondation est sans valeur, l'édifice elle-même est sans valeur, parce qu'on sait que le premier vent qui va souffler va faire tomber l'édifice. Quelqu'un dit amen. Ainsi, comme je disais, Jésus dit que les deux personnes ont bâti des maisons. Prenons que c'était des maisons semblables. La tempête est arrivée. La Bible dit que Dieu, la même façon que Dieu envoie la pluie sur les bons et les méchants, la tempête aussi arrive sur les bons et les méchants. Que personne ne se justifie en disant, c'est parce que je suis chrétien, rien de mal ne va m'arriver. Mais bien aimé, tôt ou tard, tu vas rencontrer une tempête qui va tester tes fondations, qui va tester qui tu es. Cette tempête peut venir sous forme d'une maladie qui dure et perdure. Cette tempête peut venir sous la forme d'un emploi qui a été perdu et tu te retrouves, toi un homme avec des diplômes, tu te retrouves sans emploi et tu as l'impression que tout ce que tu lis dans la Bible ne fait pas de sens. Cette tempête peut venir sous la forme d'une déception, déception de quelqu'un en qui tu avais confiance. Cette tempête peut venir sous la forme d'une injustice. Cette tempête peut venir sous la forme d'une trahison. Cette tempête peut venir simplement par un manque de besoins primaires, manque de des choses, des bases dans la vie qui va tester réellement sur quoi ta vie est fondée. Est-ce que tu es capable de continuer à t'appuyer sur Dieu quand tout autour de toi dit non? Est-ce que tu es capable de demeurer un enfant de Dieu? Bien-aimé, souvent nous sommes enfants de Dieu jusqu'à ce que quelqu'un nous marche dessus. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas, autrefois, les fondations ont été testées et ont révélé réellement qui nous sommes. La tempête des fondations vient tester réellement sur quoi notre vie est fondée. Est-ce que Christ est réellement la fondation de notre vie? Et si tu as un problème par lequel Dieu te dit comme Paul, « Ma grâce te suffit. » Vous allez voir des chrétiens, « Oh, dans l'église ici, on ne m'a pas délivré. Je vais aller dans telle église, on va me délivrer. Je vais aller dans telle église. » Mais tu peux juste t'adresser à Dieu pour savoir, poursuivrai-je, me donneras-tu la victoire? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui donnent des symptômes, des chrétiens dont les fondations ne sont pas des fondations saines, juste par la façon. Si il est béni, tu le vois à l'église. Ça va, ah, Dieu est merveilleux. Le jour où l'épreuve arrive, il n'a plus le temps. Pourquoi? Parce que les fondations, ce n'est pas le Seigneur. C'est des chrétiens émotionnels, des chrétiens météorologiques. Ils varient comme la météo. Il n'est pas stable. Le but de Dieu, c'est la stabilité. Et parfois, Dieu va te priver de certaines choses pour creuser tes fondations, pour que tu apprennes à t'appuyer sur lui. Bien-aimé, tôt ou tard, tes fondations seront testées. Dieu permettra que tu sois testé, que ton entreprise soit testée, que tes finances soient testées pour savoir est-ce que quand tout est arraché, c'est lui qui ressort ou ce n'est pas lui. Le 11 septembre 2001, lorsque les tours du 11 septembre sont tombées, les tours jumelles sont tombées, tout est tombé, mais les fondations sont ressorties. Si aujourd'hui, tu devais ne plus avoir la santé, est-ce que tu suivrais toujours Dieu? Est-ce que tu suis Dieu pour la bénédiction? Est-ce que tu suis Dieu pour qu'il te donne? Et remarquez nos prières. Seigneur, donne. Seigneur, fais. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Mais quand notre fondation, Seigneur, je t'aime et je te suivrai, même lorsque tous t'abandonnent, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je veux m'attacher à toi, pas pour ce que tu peux me donner, mais je veux m'attacher à toi pour ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Je veux m'attacher à toi, même si je ne vois pas la guérison. Je veux m'attacher à toi, même si, Seigneur Dieu, les serviteurs qui sont devant, les serviteurs me déçoivent, m'abandonnent, mais je suis à toi, à la vie et à la mort. C'est ce genre de fondation que Dieu veut que nous puissions avoir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que nous ne soyons pas balayés à tout vent de marée, car il y a des vents qui soufflent. Il y a des modes dans la chrétienté, il y a des modes. Avant, il y avait une mode qu'on appelait la bénédiction de Toronto, où il fallait tomber. La mode est venue, elle est passée. Mais nos fondations doivent être solides. Et ma question ce matin, que feras-tu lorsque tu vivras la tempête qui va tester tes fondations? Lorsque tu seras insulté par un frère qui prie avec toi, est-ce que tu vas abandonner Dieu? Est-ce que tu vas dire, je change d'église? Comment on peut m'insulter, moi? Parce qu'en réalité, le seul Dieu de ta vie, c'est toi. Parce que notre maître, lui, a été insulté. Notre maître, lui, a été injurié. On a craché sur son visage pour que tu sois là. Qu'est-ce que tu feras lorsque la tempête des fondations arrivera sur ta vie? Dieu permet cette tempête. Le but de la tempête des fondations, c'est de révéler la nature et l'état de nos fondations. Sont-elles bien fondées? Sont-elles toujours en bon état? Ont-elles besoin de réparation? Il y a une publicité qu'on passe à la télévision d'une compagnie. Je ne connais pas la compagnie, mais j'aime bien leur publicité, qu'on appelle Henault et Gosselin. J'espère que vous n'aurez jamais à avoir affaire avec eux. Mais ils disent que quand les fondations d'une maison, cette compagnie se spécialise que quand les fondations d'une maison sont mal, ils viennent et ils soulèvent la maison pour rétablir les fondations. Certaines personnes, leur fondation de leur marche, la fondation de leur vie, c'est l'argent. Et tout autour de ta vie tourne autour de l'argent, de ce que j'ai comme matériel. Mais j'aimerais te dire que le matériel va passer. Si tu t'appuies sur le matériel, tu seras déçu. Certaines personnes, la fondation de leur vie, c'est les hommes, les femmes. Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'accepte. J'aimerais te dire quelque chose. Si c'est ça la fondation de ta vie, tôt ou tard, tu seras déçu. Tu as besoin de t'appuyer sur Christ parce qu'il est le rocher éternel. Celui qui s'appuie sur lui ne sera pas déçu. Celui qui s'appuie sur lui verra la gloire de Dieu, sera secouru par Dieu. Sur quoi? Quelle est la fondation de ta vie? La tempête des fondations vient tester. Souvent, lorsque tu es prédicateur, ça va s'avérer qu'on t'a mis au programme et puis au dernier moment, on t'enlève du programme. On teste tes fondations. Est-ce que tu viens toujours au culte parce que tu aimes Dieu ou tu viens parce qu'il y a des gens? Où tu vas prêcher bien parce qu'il y a beaucoup de gens et quand la salle, il y a moins de gens, tu es moins bien préparé. Soudainement, tu n'as pas l'onction parce que en réalité, ta fondation, c'est un besoin d'attention. Quelle est la fondation de ta vie? Et Dieu enverra des tempêtes dans notre vie, des problèmes pour te dire tes fondations ont des problèmes. Mon enfant, tu marches avec moi, mais tes fondations ont des problèmes, tes fondations... C'est que tu ne pardonnes pas aux gens, tu es rancunier. Un problème qui est arrivé à 10 ans, moi, comment on a pu me faire ça? Dieu permettra que cette fondation, et il enverra la compagnie du Saint-Esprit pour soulever tes fondations, pour dire, on a besoin de réparer. Est-ce que tes fondations, ce matin, sont malades? L'été passé, lorsqu'on a acheté la maison, l'inspecteur qui était venu nous disait, il faut vérifier qu'il n'y a pas, quand tu vois une craque, il faut vérifier que la craque ne va pas jusqu'aux fondations. Peut-être que tu as vécu un problème et tes fondations sont craquées ce matin. J'aimerais te dire que le Seigneur peut le réparer. Qu'importe ce que tu traverses, le Seigneur peut te réparer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Lorsqu'on traverse la tempête de fondation, Dieu veut vérifier. Comment on peut traverser la tempête de fondation? Avant la tempête, il faut s'assurer qu'on bâtit nos fondations selon Dieu, par la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas t'édifier simplement lorsque tu écoutes les gens prêcher. Il faut que tu prennes toi-même du temps dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. toi-même avec Dieu. Toi-même, tu as un programme de lecture de la parole de Dieu. La deuxième des choses, pour que nos fondations soient solides, bien-aimés, nous n'avons pas de choix. La vie chrétienne ne peut pas se moderniser. La vie chrétienne ne peut pas s'améliorer. Pour que ta fondation soit solide, nous devons conformer notre vie à la parole de Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole de Dieu. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un ancien, il n'y a pas un bishop, il n'y a pas un enfant de Dieu, petit ou grand, qui est au-dessus de la parole de Dieu. Nous tous ici, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Là où la parole de Dieu dit « pardonne, pardonne ». Là où la parole de Dieu dit « accepte, accepte ». Chaque fois que tu soumets ta vie à la parole de Dieu, que tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est comme une pelle qui creuse et qui te permet d'établir des fondations solides. Si la tempête est passée et que vous vous retrouvez que les fondations ont été atteintes, il est important de faire une évaluation de votre situation. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi est-ce que cette tempête m'a atteint? Pourquoi est-ce que soudainement, quand j'ai manqué d'emploi, on ne m'a plus vu à l'église? Pourquoi est-ce que quand j'ai eu des difficultés dans mon couple, pourquoi est-ce que je n'ai plus eu envie de marcher avec Dieu? Pourquoi est-ce que à chaque crise qui arrive dans ma vie, j'abandonne Dieu? Il faut faire le bilan. Ensuite, il faut se repentir. Il faut se repentir sincèrement. Pierre s'est repenti sincèrement d'avoir renié le Seigneur. Il pensait que ses fondations étaient solides jusqu'à ce qu'il soit testé. Jusqu'à ce que sa vie soit testée. Pierre s'est repenti. Il faut se repentir et se tourner vers Dieu. Ensuite, il faut prendre la décision de rebâtir nos fondations. Combien de chrétiens aujourd'hui ne participent plus aux réunions de prière, les études bibliques, et ne participent plus aux réunions du mercredi, du vendredi? Bien-aimés, sommes-nous si occupés qu'on n'a pas le temps de venir bâtir nos fondations? Voilà pourquoi la tempête souffle. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 dit, « Nous sommes l'édifice de Dieu. » Éphésiens chapitre 2, le verset 21 nous dit, « En lui, tout l'édifice s'élève. » C'est quand nous sommes en Christ que l'édifice s'élève. La vie chrétienne n'est pas une vie d'émotion, des chrétiens émotionnels. On veut, il y a un séminaire, on est plein, on est nombreux. Séminaire sur la délivrance. Quand tu vois séminaire sur la délivrance, on est nombreux là. Il y a beaucoup de mauvaises fondations. La fondation, c'est que je veux utiliser Dieu pour avoir ce que je veux, mais je n'ai pas besoin de lui. Nous devons être des chrétiens fondés sur la parole de Dieu, des chrétiens qui s'attachent à Dieu dans les bons et les mauvais temps. Amen. Donc là, nous avons terminé de voir les tempêtes cycliques. Tempêtes cycliques, c'est les tempêtes de transition. Tempêtes cycliques, c'est les tempêtes qui testent les fondations. Demande à quelqu'un, en quel état sont tes fondations? Demande à quelqu'un quel état sont tes fondations. Le deuxième type de tempête, le troisième type de tempête, là on va rentrer dans les tempêtes hors saison. J'aimerais vraiment vous aider. Quand vous allez observer votre vie, ça va beaucoup vous aider. C'est ce que j'appelle les tempêtes de réajustement. Les tempêtes de réajustement. Jonas chapitre 1 et 2. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Va à Ninive, la grande ville, et prêche. Et Jonas se lève et va en direction contraire. Dieu dit à Jonas, ah bon? Tu penses que tu peux me fuir? Et Dieu envoie une tempête. Les deux dernières tempêtes se ressemblent, mais il y a une distinction dedans. La tempête de réajustement a pour but de nous ramener dans la bonne voie. Jonas va dans une direction contraire, Dieu envoie une tempête. L'origine de la tempête dans la vie de Jonas, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la nature, mais c'est Dieu qui envoie une tempête pour récupérer Jonas et le remettre dans la bonne direction. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui est en train de traverser une tempête de réajustement. Les gens autour de toi te regardent et ont l'impression que le malheur te poursuit, mais dans ton cœur, Jonas savait, dans son cœur, que cette tempête, ce n'est pas le diable. Vous vous priez, nous lions. Il dit, ne liez pas. Déliez-moi, jetez-moi. Jonas savait dans son cœur. Il pouvait venir à l'intercession, dire aux intercesseurs, priez pour moi, je traverse des problèmes difficiles. Mais dans son cœur, il sait que je fais travailler les gens pour rien. En réalité, je suis dans la désobéissance et Dieu essaye de me ramener dans la bonne direction, et ça ne me tente pas d'aller dans cette direction-là. Mais puisqu'il faut quand même donner un besoin de prière, c'est prier pour moi, oh frère Jonas. J'ai rêvé, j'ai eu une vision que vraiment Dieu t'a béni dans le pays où tu es allé. Dieu dit, faux, je ne suis pas dans cette vision. Je suis en train de le récupérer parce qu'il est dans la mauvaise direction. J'aimerais parler à quelqu'un qui est dans une tempête de réajustement ce matin. Dieu envoie la tempête pour te réajuster et te dire, tu n'as pas besoin de divorcer, réconcilie-toi avec ta femme. Tu es dans une mauvaise direction. La tempête de réajustement, elle vient soudain, elle est hors saison aussi. Et c'est un peu comme on dit, mon GPS a l'habitude de dire, off course, que tu es hors la course. Et puis, il dit, recalculation, recalibration. Et le GPS n'est pas énervé. Tant aussi longtemps que tu vas dans la bonne direction, il fait, tu es dans la mauvaise direction. Il te dit, on va recalculer le trajet. Tu pourras aller dans la bonne direction, mais ça dépend à combien de temps maintenant ça va te prendre pour changer de direction. Combien de gens aujourd'hui sont assis dans cette salle et résistent à une direction que Dieu est en train de vous donner clairement. Tu as fait un rêve, Dieu t'a parlé, mais tu ne veux pas parce que tu dis, non, c'est trop dur, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là, c'est trop dur. Je ne peux pas servir Dieu comme ça. C'est quand même moi, Jonas. Je suis célèbre dans mon pays. Qu'est-ce que j'ai à faire là-bas? Mais Dieu envoie une tempête pour dire, je veux te réajuster. Et la tempête de réajustement, le problème, c'est que ça coûte aussi à ta famille et aux gens autour de toi quand tu ne réajustes pas la course. Les marins payent le prix pour un homme qui ne veut pas se réajuster. Et Dieu dit, tant et aussi longtemps que lui ne se réajuste pas, ceux qui sont avec lui dans le bateau, attention avec qui vous êtes, ceux qui sont avec lui dans le bateau, payent le prix. Dieu n'est-il pas en train de te réajuster? Dieu n'est-il pas en train de te réajuster ce matin? Jonas avait l'onction. C'est ça le pire dans une tempête de réajustement. C'est que tu as l'onction, mais tu es dans la mauvaise direction. Et tu es maintenant, trompé parce que tu fais des miracles. Les miracles arrivent. Tu prêches, tu vois quand même des résultats, mais tu es au mauvais endroit et Dieu t'envoie plein de persécutions, de problèmes. Des gens se dressent contre toi pour te réajuster. La Bible dit que quand Salomon s'est éloigné de Dieu, Dieu lui a suscité des ennemis pour le réajuster. Vous dites plus amen? Vous dites plus amen? Dieu a suscité des ennemis à Salomon pour te réajuster. Donc, dans notre vie, parfois, Dieu permet que des gens s'opposent à nous pour nous réajuster. Tu as besoin d'être réajusté au niveau de l'humilité. Dieu envoie quelqu'un qui va juste s'opposer à toi, qui sera juste devant toi. Quand tu prêches, le message est chaud. Il ne dira jamais amen pour cultiver ton humilité. Can you still preach, preacher? Est-ce que vous me saisissez? Dieu envoie quelqu'un autour de toi qui ne sera jamais d'accord avec toi pour t'apprendre à compter plus sur Dieu. La tempête de réajustement. Quel est le domaine de ta vie où Dieu envoie une tempête ce matin pour te réajuster? Le diable n'est pas derrière la tempête. Et ce qui est bon dans la tempête de réajustement, c'est que Dieu est avec toi dans la tempête, mais il n'est pas dans le bateau. Il est dans la tempête, mais pas dans le bateau. Il sera avec toi dans le ventre du poisson. Mais en attendant, tu dois dire aux gens, je suis la cause des problèmes. Je démissionne de ce poste. Je démissionne de ce département. Jetez-moi à l'eau et vous verrez le calme arriver. Dieu n'est-il pas quelque part dans ta vie, dans un domaine particulier en train de te réajuster. Quelqu'un dit réajuste-moi Seigneur. Quelqu'un dit réajuste-moi Seigneur. Le but de Dieu dans une tempête de réajustement, c'est de réajuster notre course avant qu'il ne soit trop tard. avant qu'on ne soit éloigné. Parce que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, pendant un temps, tout va bien aller. Lorsque une organisation, lorsque un enfant de Dieu s'éloigne de Dieu, pendant un temps, vous allez voir que les choses vont continuer à aller. Mais c'est comme, chez moi, j'ai un foyer de bois. Et l'hiver, on met du bois, puis on allume, puis c'est beau, c'est merveilleux. Mais, ou bien ceux qui viennent de chez nous, là, ce qu'on appelle les casse-choses pour préparer les mbabou, là, comment on appelle ça, hein, les, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Brasero, voilà, les brasero. Voilà, je viens d'apprendre un mot du français. Un bon mot Scrabble. Quand vous prenez une branche de bois qui était dedans, vous la sortez, qu'est-ce qui se passe? Le feu continue. Donc, la branche peut dire, mais je suis OK, je peux vivre sans le feu, je peux vivre sans être avec les autres. Mais avec le temps, la flamme commence à diminuer. Quand tu es, Dieu envoie une tempête de réajustement. C'est parce que Dieu sait que depuis que tu as cessé de prier, Dieu sait que tu as l'impression que spirituellement tu es fort. Mais Dieu envoie la tempête de réajustement pour te dire, si tu ne retournes pas dans une vie de prière, si tu ne retournes pas dans une vie de sanctification, tu finiras par tomber parce que le feu va continuer à diminuer. La tempête de réajustement est une tempête thérapeutique. La solution dans une tempête de réajustement, c'est faire ce que Jonas a fait dans le ventre du poisson. Se repentir. Le danger dans un message comme celui de ce matin, c'est de croire que on prêche pour mon voisin, mais Dieu est en train de te parler. Je suis en train de réajuster. Frère, quand Dieu a commencé à me réajuster, quand Dieu a commencé à me réajuster, as-tu déjà pleuré, dormi par terre? Tu pleures, puis les larmes sont finies. Dieu te réajuste. Et quand Dieu te met dans une tempête de réajustement, la seule personne qui peut te sauver, c'est Dieu. Il n'y a plus des hommes qui peuvent... Jonas, il n'y a personne qui pouvait le sauver, il n'y avait que Dieu. Il dit, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que de rester dans le bateau. Quand Dieu te met dans une tempête de réajustement, il créera un problème que seule ta repentance te sortira de là. Quand Dieu te met dans une tempête de réajustement, il créera un problème que seule sa main peut te délivrer. Voilà pourquoi dans une tempête de réajustement, le diable ne peut rien, les hommes ne peuvent rien, les sorciers ne peuvent rien. Il n'y a que Dieu qui peut te délivrer d'une tempête de réajustement. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur très fort ce matin. Quelqu'un acclame le Seigneur ce matin. La dernière tempête que nous voulons voir ce matin, avant de terminer, c'est une tempête qui est aussi hors saison. C'est ce que j'appelle la tempête collatérale ou la tempête indirecte. J'aimerais parler de cela, mais prendre un autre angle. Actes chapitre 27 nous montre que Pierre était dans un, Paul était dans un bateau et ils étaient en train d'aller vers Rome. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller, Pierre dit au capitaine, écoute, il faut s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas traverser parce que l'hiver va arriver. Et le capitaine du bateau ainsi que le militaire romain n'ont pas écouté Paul. Ils ont décidé que nous avons la science, nous avons la connaissance, nous avons l'expérience. Une des choses que j'ai appris avec Dieu, c'est que j'ai l'expérience de rien. Je ne connais rien. Et pendant qu'ils sont partis, Paul, le livre des Actes nous raconte que ils ont rencontré une tempête appelée Héraclion. Et cette tempête a soufflé avec une telle violence que le bateau a été perdu, la cargaison a été perdue et les gens ont été sauvés juste parce que Paul était dans la prison, dans le bateau. Et il peut arriver dans notre vie que nous traversions une tempête, pas parce que la tempête nous est destinée, mais parce que quelqu'un avec qui on est en connexion est en désobéissance avec Dieu et n'a pas écouté, et tout le monde paye le prix. C'est pour cela qu'il y a deux vendredis, j'étais en train de prêcher en parlant des connexions qui nous élèvent ou des connexions qui nous bloquent. Paul n'a pas choisi de la tempête, mais parce que les gens qui étaient en autorité étaient dans les désobéissances, n'ont pas écouté, Paul s'est retrouvé dans une tempête malgré lui. L'origine d'une tempête collatérale, c'est un manque d'écoute. Et c'est un péché que la personne autour de nous, qui est en autorité, qui est en connexion avec nous, a commis et est sous une sentence divine. Et nous, nous restons là parce que c'est mon frère, je le connais. Il y a des moments où il faut se retirer. Il y a des moments où nous devons nous retirer. Il y a des moments où on ne peut plus marcher. Il y a des moments où il faut dire, continue d'avancer dans ta direction, on se verra de l'autre bord. Que faire lorsque tu es dans une tempête que tu n'as pas choisie? 1 Roi, chapitre 22 et 23, nous raconte la mort du roi Joas. Joas, Dieu avait prononcé un jugement sur Akab. Dieu voulait abattre Akab. Et dans 1 Roi, chapitre 22-23, Joas va décider d'aller avec Akab à la guerre. Or, la tempête qui soufflait était une tempête destinée à tuer Akab. Dieu avait élevé Jéhu pour tuer Akab. Mais Joas disait, c'est mon ami, nous sommes rois. Je dois marcher avec les gens qui ont l'onction. Check toujours parce que tu ne sais jamais si le soir il avait perdu. Je dois marcher avec lui parce qu'il est populaire. Et si je suis connecté à lui, il va me rendre populaire. Mais c'est Dieu qui nous élève. Ce n'est pas un homme. Je dois être connecté à lui parce qu'il connaît les bonnes personnes. C'est Dieu qui fait les meilleures connexions, car les connexions des hommes ne sont que vanité. Je dois marcher avec lui parce qu'il a l'argent et il peut investir dans mon entreprise ou dans mon ministère. C'est Dieu qui détient l'argent ou l'or. Que l'homme ne te trompe pas. Et Joas va aller marcher avec Akab. Et sur le champ de bataille, il sera tué. Alors que Dieu n'avait pas prévu qu'il serait victime d'une tempête collatérale. Il y a des gens qui sont sous une sentence divine. Il y a des moments où tu ne dois plus marcher avec eux. Tu dois te retirer. Joas, le roi Joas, savait que Akab était sous un jugement divin. Dieu a même, à un moment donné, envoyé un prophète, Michée, pour parler à Joas, pour dire, ne va pas à la guerre. Si tu vas à la guerre, tu vas mourir. Et Akab dira, je n'aime pas Michée parce qu'il prophétise toujours contre moi. Frère, parfois, le pasteur te dira des choses que tu ne veux pas entendre, mais c'est pour sauver ta vie. Et Joas ne va pas écouter. Joas va aller à la guerre et mourir, victime d'une tempête collatérale. Es-tu victime ce matin d'une tempête collatérale? Les chrétiens sont victimes de tempêtes collatérales quand parfois en affaire tu mélanges ton argent avec quelqu'un. Dans ton cœur, tu as la conviction. Le Saint-Esprit te dit, ne mélange pas ton argent avec son argent. Toi, tu es parti mélanger. Tu as perdu l'argent. Lui, il est habitué. Toi, tu n'es pas habitué. Lui, il peut se refaire la peau. Toi, tu ne peux pas. Tu as perdu parce que Dieu t'a dit, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Ton problème, ce n'est pas le diable, c'est un manque d'écoute. Et à cause du manque d'écoute, beaucoup d'enfants de Dieu sont victimes de tempêtes collatérales. Ce n'est pas toi que Dieu visait, mais tu es victime par association. Quand quelqu'un est assis, parle mal des gens, parle mal de l'église, Dieu est assis avec lui, tu seras victime collatérale. Victime par défaut. Victime par défaut. Quand il y a une chose que j'ai appris, dès que quelqu'un commence à mal parler d'un serviteur de Dieu, si je suis avec mon épouse, que j'essaie d'ouvrir la bouche, elle va me donner un coup de pied en dessous de la table. En me disant, je ne veux pas être victime d'une tempête collatérale. Parce que tout le monde ne sont pas tes collègues. Si je ne suis pas d'accord avec son ministère, je ferme ma bouche. Celui qui l'a établi le jugera. Ce n'est pas à moi de le juger. Savez-vous qu'au temps de Jésus, les gens n'ont pas compris son ministère? Comment tu peux m'expliquer quelqu'un qui était charpentier? Tout à coup commence à faire des miracles, les démons sortent, mais c'était la panique totale. Et puis vous venez à lui dire, race de vipère. Et puis il dit, je suis pasteur. C'était un révolutionnaire à son époque. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas que ça me donne le droit de parler n'importe comment et de dire n'importe quoi. Ce n'est pas moi qui l'a établi. Celui qui l'a établi le jugera. C'est le principe que David applique dans sa vie. Quand on dit frappe Saül, il dit il a reçu l'onction, Dieu s'occupera de lui ou il mourra naturellement. Je ne veux pas être victime d'une tempête collatérale. Es-tu ce matin victime d'une tempête collatérale et tu cherches le diable là où le diable n'est pas ton problème? C'est la tempête que tu crées par association avec des gens qui se créent eux-mêmes des problèmes qui sont sous une sentence divine. 2 Chroniques chapitre 25, pour terminer, nous parle du roi Amatsia. Amatsia va s'associer avec un roi d'Israël, c'est un roi de Juda. Il va s'associer, il va dire, construisons des bateaux, nous allons faire des commerces. Dieu envoie un prophète pour lui dire, cette affaire que tu as commencée, arrête-la. Il dit, vous n'allez réussir en rien si vous vous associez. Cet homme est sous un jugement. Et Amatsia dit, mais, et puis il voulait en plus aller à la guerre. Amatsia dit, mais comment est-ce que je peux, comment je vais faire? Parce qu'il avait embauché des gens, non seulement pour les bateaux, mais pour aussi aller en guerre. Dieu dit, même si tu es vaillant à la guerre, à cause de la connexion que tu as avec cette personne-là, tu vas échouer. Amatsia dit, mais tout l'argent que j'ai engagé, Dieu répond au roi Amatsia, qu'est-ce que c'est que l'argent que tu as engagé, est-ce que Dieu ne peut pas te le redonner? Qu'est-ce que c'est que les 1000, 10 000 dollars que tu as mis dans une affaire et Dieu est en train de te dire ce matin qu'il y a un jugement sur cette personne avec qui tu es? Et si tu restes en connexion là, tu vas perdre pas seulement l'argent, mais tu risques de perdre ta réputation, tu risques de perdre ta vie. Veux-tu être victime d'une tempête collatérale ou veux-tu simplement faire comme le roi Amatsia, te retirer et laisser Dieu traiter avec quelqu'un? Dieu n'est pas notre ami, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas notre copain, Dieu est Dieu. Quand Dieu a prononcé le jugement, Dieu a prononcé une sentence, Dieu veut discipliner quelqu'un, et que vous faites comme Jonathan, le fils de Saül, vous ne vous retirez pas. Quand Dieu frappe, vous y passez aussi. Il dit, je t'aime, mais comme tu ne t'es pas retiré, je te frappe aussi. C'est comme lorsqu'il y a une manifestation, quand la police vient, qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'abord tout le monde. Tout le monde va d'abord au cachot, et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On trie. Frère, es-tu victime ce matin d'une tempête? Je termine ce matin en disant, 4 tempêtes. La tempête de transition. Deuxième tempête, tempête de fondation. C'est les deux tempêtes cycliques. Tempêtes qui vont arriver, qu'importe ce qui se passe. Troisième tempête, c'est la tempête de réajustement. Tempête de réajustement. Jonas 1-2. C'est une tempête qui arrive dans notre vie parce que simplement on est dans la mauvaise direction et Dieu par amour veut nous ramener dans la bonne direction. Dernière tempête, c'est la tempête collatérale. Ce n'est pas pour moi, mais j'ai subi cette tempête. Depuis qu'il est rentré dans ma maison, rien ne marche. Pourquoi? Parce que Dieu en a contre lui, mais parce que je suis à côté, j'ai subi les dommages. Ce matin, en disant, tu survivras à la tempête. Qu'importe le genre de tempête que vous traversez, Dieu est là. Quand vous êtes dans une tempête collatérale, vous avez encore le temps de vous retirer. Vous pouvez faire comme Amatsia, vous retirer pour laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Parce que le but de Dieu, quand Dieu nous passe par une tempête, ce n'est pas qu'on puisse couler, mais c'est qu'on puisse survivre à la tempête. Tu survivras à ta tempête. Est-ce qu'on peut se lever ce matin à acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia.